appartient à LVMH, suit ainsi l'exemple de Starbucks qui avait fait la même chose l'an dernier après l'arrestation sans raison de deux hommes noirs dans un magasin de Philadelphie. Cette fermeture d'un après-midi entier avait coûté à Starbucks environ 12 millions de dollars de manque à gagner. Washington, Grégory Phillips, France Inter.
Et puis la suite aujourd'hui, si le temps le permet, des quarts de finale à Roland-Garros avec Novak Djokovic face à Alexander Zverev, Dominique Thiem contre Karen Khachanov et puis chez les dames, Simona Halep contre l'américaine Anisimova et Madison Keys contre Ashleigh Barty.
Merci Agnès Soubiran. Une journée très instable et orageuse,
et oui,
Marie-Pierre
Nicolas,
Planchon.
Il va tomber un mois de pluie en une journée, hein, du sud-ouest au massif central, au centre, à l'Île-de-France, au nord, à surveiller. En revanche, le soleil et la chaleur résistent sur l'est et les régions méditerranéenne. Mais attention, les orages vont gagner aussi les Alpes, le Jura, l'Auvergne et la Bourgogne jusqu'au nord-est. Rappelons le dicton, un Silton au mois de juin, année de paille et de foin. Sur la Bretagne et les plis de la Loire, ce sera un petit peu plus lumineux avec un orage en soirée. À l'ouest, on va perdre jusqu'à 14 degrés par rapport à hier. Le ressenti sera automnal, alors que sur la frange est, on va dépasser encore les 30 degrés.
Merci Marie-Pierre. 9h06, vous écoutez Inter.
France Inter.
À portée de voix.
À la maison, en voiture ou sur votre téléphone,
France Inter arrive sur les assistants vocaux.
Les dossiers les plus passionnants d'affaires sensibles.
Oli et ses histoires pour les enfants.
Vos émissions en direct.
Le meilleur de France Inter est désormais à portée de voix.
Toutes les infos sur franceinter.fr. France Inter aime
Parasite, le nouveau film du cinéaste coréen Bong Joon-ho, palme d'or au Festival de Cannes.
다혜영님, 안녕하세요. 그 저는 민혁군 소개로 오늘.
아, 네네, 들어오세요.
Lorsque les pauvres s'invitent chez les riches, c'est le début d'un engrenage incontrôlable dont personne ne sortira indemne.
Full-time으로 앞서 어떻게 하시는지. Is it okay with you?
Parasite, un grand thriller politique, féroce et jubilatoire, actuellement au cinéma, un film France Inter.
Augustin Trapenard, Boomerang.
Boomerang avec Françoise Nyssen ce matin, Nicolas, c'est parti. À l'heure des grandes économies, puisque c'est ce qui nous attend apparemment, un éloge peut-être, un éloge de cet espace de résistance qu'est la radio, un éloge de ce que le philosophe Gaston Bachelard appelait « espace de parole » dans un texte de 1949 qui s'intitule « Le droit de rêver ». À l'époque où on l'écoutait de plus en plus, la radio, il parlait de cette solidarité des auditeurs qui soudain, par la grâce d'un transistor, ont les mêmes valeurs, la même volonté de douceur, la même volonté de rêve. Alors je sais bien qu'il est de bon ton de faire le pari de l'économie aujourd'hui, je sais aussi que tout va de plus en plus vite, de plus en plus fort, mais ne faut-il pas justement des lieux de résistance, comme la radio par exemple, des heures de repos, écrit Gaston Bachelard, des heures de calme, des heures de rêverie radio diffusée, ce serait salutaire, dit-il. Et certains diront, bon, c'est l'heure des rêveurs, les gens énergiques ne l'écouteront jamais, mais il faut qu'il y ait l'heure des rêveurs, qu'il y ait l'heure du calme, écrit-il. La radio est la réalisation intégrale de la psyché humaine. Il faut qu'elle trouve l'heure et la méthode qui feront communier tous les psychismes dans une philosophie du repos. C'est ce qu'écrivait Gaston Bachelard dans Le droit de rêver. Alors à l'heure des grandes économies, puis c'est ce qui nous attend hein, apparemment, un autre grand plan d'économie, vous n'allez quand même pas nous l'enlever ou le mettre en danger, le droit de rêver, si ?
Boomerang, Boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Mon invité d'aujourd'hui n'est pas n'importe quelle auditrice de radio. De retour aux éditions Actes Sud, la maison fondée par son père à la fin des années 70, elle a exercé les fonctions de ministre de la Culture pendant les 17 premiers mois de la présidence d'Emmanuel Macron. Plaisir et nécessité, c'est le titre du livre dans lequel elle s'exprime sur son expérience du pouvoir notamment, ou du pouvoir-faire, comme elle le dit volontiers. Un livre de conviction, un livre d'ambition, un livre de transmission aussi. Bonjour Françoise Nyssen.
Bonjour Augustin.
Merci beaucoup d'être là ce matin à mes côtés. La radio de demain, celle qui nous attend, avec moins de moyens, hein, c'est un fait. Est-ce qu'elle vous fait rêver, vous ?
Je n'enlèverai pas un mot, une virgule au texte de Bachelard. Il est tellement l'expression de l'importance que représente la radio. Moi, je suis une enfant de la radio. J'ai été élevée par la radio. Je me souviens de mon grand-père qui, le soir, avant de se coucher, s'asseyait dans son fauteuil et écoutait la radio. J'ai vécu avec un beau-père extraordinaire qui utilisait la radio pour nous apprendre la musique.
Oui, mais si on lui donne de moins en moins de moyens, Françoise Nyssen, elle risque de moins faire rêver.
Il y a de plus en plus d'inventivité et d'énergie chez les gens qui la font. Et je pense que la question est surtout de continuer et de faire cette radio de qualité qui est exceptionnelle. En France, on a quand même une chance.
C'est possible ça, avec de moins en moins de moyens ?
Je pense que c'est toujours possible. Moi, j'ai géré pendant 40 ans des entreprises. On se pose d'abord la question, toujours d'abord, la question du sens, la question de la qualité. Et c'est à l'aune de cela, évidemment, qu'on continue à penser la chose, je ne vais pas oser dire réfléchir, mais à penser
la suite. Vous aurez le droit par la suite et pas tout de suite. La grande réforme de l'audiovisuel, elle a été initiée lorsque vous étiez ministre, notre ministre de tutelle. C'est l'un des dossiers auxquels vous avez dû vous atteler dès vos prises de fonction. Quel avenir est-ce que vous lui voyez, vous, à la radio publique aujourd'hui ?
L'avenir que je vois, c'est que si tout le monde se met à travailler ensemble au service du sens, au service de la qualité, alors il y a une possibilité pour cela. Et ce que je me suis attachée à faire quand je suis arrivée à cette responsabilité, c'est de mettre ensemble les responsables des sociétés. Et le fait de travailler ensemble permet d'envisager des coopérations plus que jamais, et c'est une de mes grandes convictions.
Mais vous comprenez quand même l'inquiétude des syndicats, des salariés, des auditeurs aussi.
Mais le monde est source d'inquiétude et source d'angoisse. Et c'est pour ça d'ailleurs que la radio est à ce point nécessaire, parce que cette part de rêve que permet la radio, elle est essentielle. Et l'idée, évidemment, et moi c'est ce que j'ai martelé sur cette transformation, cet accompagnement de la transformation de l'audiovisuel pour résister justement, oui, par rapport à tout ce qui se passe par ailleurs et aux prédateurs, eh bien c'est d'être encore plus forte et d'être plus fort ensemble. Donc peut-être réduction de moyens, mais pas à la hauteur de ce qu'on a entendu dire à certains moments. Et au contraire, moi j'ai travaillé dans le sens de d'abord penser la qualité, la coopération, le sens, et maintenir ces sources d'enchantement, ces sources d'information, ces sources de diffusion de la culture.
Dans Plaisir et Nécessité, Françoise Nyssen, vous écrivez que l'obsession du gouvernement était d'abord de faire des économies. Et vous déplorez qu'aucune réflexion n'ait été menée sur le fond et le sens de cette réforme de l'audiovisuel. Comment ça se fait?
Je ne sais pas, mais moi je sais que je l'ai fait. Et je veux dire que je l'ai fait et je ne l'ai pas fait toute seule.
Dans quelle mesure la culture est-elle réellement une priorité pour le gouvernement? S'il y a une personne qui peut répondre à cette question, c'est bien
Écoutez,
vous.
Écoutez, pour ce matin, je me suis amusée à ressortir ce qui fait que j'ai dit oui finalement à Emmanuel Macron. C'est son programme pour la culture. C'est stupéfiant, il faut y retourner. Tout y est, ce réenchantement par la culture, ce partage, cet accès. La culture doit être possible.
Vous voulez dire que c'était une priorité sur le papier, que ça l'a été un peu moins par la suite ?
D'une certaine façon, après, le gouvernement est nommé, il y a un Premier ministre, le président a été élu sur un programme, et les ministres font. Et moi, je me suis attachée, j'ai martelé pendant ces 17 mois l'importance de l'accès à la culture, avec toutes les déclinaisons, que ce soit la pratique artistique culturelle, et puis tous le plan bibliothèque, le pass culture en termes d'accès. Et puis la régulation, pour soutenir les artistes et pour soutenir la possibilité pour les artistes de continuer à vivre de leur culture.
Maintenant que vous n'êtes plus ministre, quel regard est-ce que vous portez sur la vie politique ?
D'une certaine façon, je ne m'intéresse pas à porter un regard sur la vie politique. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses adviennent et que les choses se fassent. Le hasard fait, ou la coïncidence, c'est que juste avant, dans la matinale, il y avait Brune Poirson qui venait avec des mesures très pragmatiques et très concrètes pour aborder cette question de la transition écologique qui est nécessaire aujourd'hui, avec une loi pour le recyclage, l'économie circulaire, lutter contre le plastique. C'est essentiel de faire des choses comme ça, et il y a des choses qui se font pas à pas.
Donc
c'est ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que les choses se font, et c'est de dire si ça ne se fait pas.
Oui.
Et d'une certaine façon, en revenant au sein de la maison où je suis tellement heureuse d'être, je suis au milieu d'auteurs qui disent cela. Je suis au milieu d'auteurs qui prennent en responsabilité ces questions-là, en créant la collection avec Cyril Dion du Domaine du Possible. On martèle on l'a créé en 2011, et on l'a créé en 2011 parce qu'on était concernés par ça. En créant un lieu de vie culturelle à Arles, un écosystème avec une école et tout cela, on dit cela, une école dans la nature.
Il y a des choses que vous regrettez, Françoise Nyssen, aujourd'hui, des choses qui vous auraient donné envie de continuer à mener votre mission, à la mener jusqu'au bout.
J'étais prête à aller plus loin. Après, le temps politique est quelque chose dont il faut tenir compte. On n'est pas propriétaire de ce poste-là. Oui. Les choses continuent. Ce qui est important, c'est que les choses continuent et qu'elles adviennent.
Qu'est-ce que vous avez ressenti concrètement lorsqu'Édouard Philippe vous a convoqué dans son bureau pour vous dire qu'il souhaitait procéder au remaniement du gouvernement? Édouard Philippe, que vous n'épargnez pas dans le livre, il faut le dire.
Non, ce n'est pas une question d'épargner ou de ne pas épargner. C'est une question de je n'ai pas senti la possibilité de défendre haut et fort, comme je le sentais, mes convictions, à savoir, bien sûr, le soutien des auteurs. Hein, je cite le passage de la CSG des auteurs qui a été pour moi quelque chose de difficile, oui. Parce que je me suis rendu compte que l'auteur, en tant qu'auteur, n'était pas considéré comme un métier d'être auteur. Et donc, le fait que la CSG augmente pour eux sans compensation, ça n'avait pas l'air d'être un problème.
Alors, sur ce sujet-là, précisément, cette impossibilité d'agir, vous l'avez vécu comment ? C'était dramatique, ça a été un drame.
Mais d'une certaine façon, on a tellement de choses à faire, on a tellement peu de temps pour, lamenter, qu'on travaille, on y va. Moi, ça m'est même arrivé de lancer des sujets sans avoir tenu les réunions interministérielles absolument obligatoires. Je me souviens, à Cérimania, j'ai lancé dans le discours que je faisais la nécessité de reprendre le plan contre le piratage et de lutter contre les sites pirates. Bon, je me suis rendu compte que je n'avais pas établi ça avant, sur la contribution à l'audiovisuel public aussi. Mais à un moment donné, il faut lancer ses convictions, il faut les dire. Sur la pratique artistique et culturelle, c'est quelque chose que j'ai voulu immédiatement lancer avec Jean-Michel Blanquer, avec qui j'ai travaillé en grande complicité. Bon, voilà, ça c'était la façon d'avancer. Et j'ai avancé avec ses convictions. Et ça a donné beaucoup de choses qui sont aujourd'hui, heureusement, reprise par le nouveau ministre qui va les continuer.
Oui, ce qui est quand même passionnant, hein, c'est qu'à vous écouter et à vous lire surtout, Françoise Nyssen, c'est que vous avez toujours senti que vos méthodes, que votre personne aussi suscitait une certaine méfiance de la part des conseillers de Matignon, des conseillers de l'Élysée, pour la culture. Pour quelle raison, à votre avis ?
C'est à eux de le dire, d'une certaine façon. Moi, c'était ma perception. Peut-être que ce sont un certain nombre de personnes ne sont pas des gens qui ont été au plus proche du faire et de faire advenir. Moi, j'ai passé mon temps. D'abord, je suis chimiste, excusez-moi, urbaniste, excusez-moi, 40 ans dans l'édition et toute ma vie dans les livres. Donc moi, je suis formée à cela. Je suis nourrie de la culture.
Faire, de la culture et du collectif aussi.
Et
peut-être.
Du collectif. Et à Arles, on organise des concerts, on organise des lectures. Donc on est en permanence dans cette de vivre par et de la culture.
Mais est-ce que vous
et
diriez
diffuser la culture.
Pour que la politique telle qu'elle s'exerce aujourd'hui, c'est le lieu du collectif.
Oui. C'est le lieu du collectif et il faut travailler plus en collectif. Et c'est vrai que je suis...
Donc s'il faut travailler plus, c'est que ça n'est pas encore suffisamment.
C'est pas encore suffisamment. Il faut passer ces barrières, il faut avancer et plus en coopération.
Celle qui n'est pas du tout dans le collectif, dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Françoise, c'est la culture. Et son actualité individualiste, perso, complètement centrée sur elle-même. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mercredi 5 juin ?
Le monde ne connaît pas le repos.
Côté court, à perdre haleine pour sa 28e édition, le grand festival de courts-métrages qui a vu passer Yann Gonzalez, Justine Triet ou encore François Ozon s'installe pour 10 jours à Pantin, tremplin du jeune cinéma français défricheuse et audacieuse. La manifestation programme près de 300 réalisations projetées au Ciné 104. Côté compétition, pas moins de 10 jurys différents distribueront 13 récompenses, tandis qu'un focus consacré au cinéma portugais sera proposé avec la projection de films de Manuel de Oliveira, de João César Monteiro ou de Miguel Gomes. Oui, tout de même.
Un livre, quelque part, il se fait tout seul. Au fond, je crois que chaque livre raconte un épisode ou plusieurs de ma jeunesse, en fait.
La claque Pajac, l'auteur et dessinateur franco-suisse Frédéric Pajac a remporté hier le prix Goncourt de la biographie 2019 pour le volume 7 de son manifeste incertain, publié aux éditions Noir sur Blanc et consacré aux poétesses Emily Dickinson et Marina Tsvetaeva. À travers leur vie héroïque, comme il l'écrit, l'auteur rend hommage aux émotions ensevelies que les deux artistes ont su transformer en délicates machines de guerre. Depuis 2012, Frédéric Pajac publie chaque année un nouveau volume de son manifeste incertain, projet fou, inclassable, où se mêle biographie, autobiographie, essai, poésie, dessin. Vous savez ce qu'on dit, Françoise, dans ces cas-là ? Bien joué, Moret !
Dora Maar est une grande photographe surréaliste.
Et quand il y en a marre, il y a Dora Maar. Après Man Ray et Brassailles, le Centre Pompidou à Paris met à l'honneur dès aujourd'hui l'icône surréaliste Dora Maar dans une grande rétrospective événement. La peintre, photographe, intellectuelle, actrice de l'entre-deux-guerres, artiste, se dévoile à travers un parcours inédit en France de plus de 500 œuvres et documents, notamment son célèbre portrait du but, créature hybride à l'inquiétante mignonnerie. C'est jusqu'au 29 juillet, on aurait tort de s'en priver. Et mercredi de radio, Cinoche à gogo, car aujourd'hui dans les salles, on se laisse contaminer par Le Parasite de Bong Joon-ho, tragicomédie aussi politique qu'hilarante, récompensée d'une palme d'or si méritée à Cannes le mois dernier. On plonge avec Les Piranhas Napolitains de Claudio Giovanesi, qui adapte la fresque mafieuse de Roberto Saviano. Et sinon, on choisit évidemment D'être vivant et de le savoir d'Alain Cavalier, hommage vibrant, vivant, troublant à Emmanuel Bernheim et à la magie du cinéma. Cœur avec les doigts. Françoise Nyssen qui acquiesce, évidemment, devant tous ces conseils culturels. De retour au bercail, Françoise Nyssen.
J'acquiesce parce que le film de Cavalier est magnifique. J'ai eu la chance de le voir. Il est extrêmement émouvant et il montre ce que l'art peut faire pour dire cette chose indicible qu'est le deuil. Et c'est magnifique parce qu'Emmanuelle Bernheim est tellement vivante dans ce film. Et ce film, c'est même pas un film d'une certaine façon, c'est une œuvre d'art. C'est tellement poétique, c'est vraiment un moment magnifique. C'est pas un film, je dirais, très facile dans le sens où c'est vraiment quelque chose de très intérieur, mais c'est extraordinaire. C'est un grand, grand moment d'émotion.
Plaisir et nécessité, c'est votre livre, Françoise Nyssen, en librairie. Aujourd'hui, un livre dans lequel vous partagez, on l'a compris, ce en quoi vous croyez, mais aussi votre expérience du monde politique. Et cette expérience, j'ai l'impression qu'elle a été conditionnée par une chose que vous ne pouviez pas maîtriser, à savoir le temps. En fait, la temporalité. C'est en cela que le livre est assez passionnant, à mon sens. Quelle temporalité régit le monde de la vie politique? Est-ce que c'est de l'urgence? Est-ce que c'est au contraire un temps élastique et infini?
Alors, quand je suis arrivée dans ce ministère, je ne savais pas, d'abord, première chose assez amusante, je ne savais pas qu'on faisait un discours au moment où on arrivait. Et donc, de façon improvisée, totalement improvisée, je me suis appuyée sur la phrase d'Edgar Morin que j'adore et que j'ai redite en sortant. À force de sacrifier l'essentiel par l'urgence, on oublie l'urgence de l'essentiel. Et c'est vrai qu'il y a une espèce de temporalité comme ça qui est haché et qui va à toute vitesse. C'est une chose que j'avais découvert. Par exemple, une expression communément admise, mais que j'ai vérifiée, c'est un agenda de ministre. On n'a pas un interstice de temps. Donc c'est vrai que c'est difficile d'appréhender le temps.
Et puis la communication aussi, j'ai l'impression qu'on sacrifie aussi quelquefois le fond pour la communication.
Alors ça, c'est une chose que j'ai découverte aussi, et ça m'a étonnée. Et puis je me suis rendu compte, enfin, quand on réfléchit aussi, c'est nécessaire de communiquer sur ce qu'on fait, comment on avance, parce que c'est ce qu'on doit, c'est le débat démocratique.
Quel genre de communicante est-ce que vous êtes? Vous ne me dites pas, je vais réfléchir, Françoise Nyssen.
Non, vous savez, là aussi, je l'ai dit que l'ignorant affirme, le savant doute et le sage réfléchit. Moi, j'aime bien, je suis le doute. Vous savez, je disais que je suis chimiste et j'ai eu la chance d'avoir cours avec le grand Prigogine. Et le principe d'indétermination, d'incertitude de Heisenberg a été pour moi une révélation. Donc je suis aussi le principe d'incomplétude de Gödel. En fait, la physique a fait une révolution il y a quelques années déjà pour montrer l'incertitude. Et ça m'obsède.
Et pourtant, vous y êtes allé. C'est ça que je trouve fascinant quand même. Vous y êtes allé dans ce lieu de l'action, dans cet espace de l'action qu'est la politique. Quand est-ce que vous avez compris que l'inconnu ne vous faisait absolument pas peur?
Ah ben, je ne l'ai pas compris. Et je me demande parfois pourquoi, systématiquement, comme ça, je sors de ces zones de confort. Parce que c'est quand même le bonheur absolu d'être dans une maison d'édition, dans un lieu où on mène une vie culturelle intense, auprès des enfants, à travers l'école qu'on crée. Pourquoi j'y étais? En responsabilité. Je dirais qu'à un moment donné, moi je me suis toujours considérée, depuis toujours, comme une citoyenne. On ne peut pas vivre hors le monde.
Même quand vous étiez toute petite, vous écrivez que vous étiez plutôt seule, livrée à vous-même.
Oui, mais je voudrais revenir sur la responsabilité. J'ai été très marquée par une grand-mère qui, à 20 ans en Suède, c'était le début de la guerre 14, elle était juste, 14-18, elle était juste diplômée de kinésithérapie. Elle a considéré qu'elle ne pouvait pas rester dans un pays neutre. Elle a pris un bateau et elle est venue soigner les soldats français à Rouen. Je vous assure que quand on a la chance d'être élevé dans un contexte comme ça, avec ses valeurs et cette responsabilité, eh bien, quand on vous dit de porter en responsabilité ce que vous avez fait toute votre vie, c'est-à-dire porter la culture, défendre la culture, diffuser la culture, eh bien, on y va.
L'amour des livres, Françoise Nyssen, il arrive quand? Et il sert à quoi, surtout, dans votre vie à vous?
Alors, moi, il m'a fait vivre. Et j'ai un amour conjugué, les livres et la musique, puisqu'effectivement, étant jusqu'à 15 ans, enfant unique, avec des parents qui travaillaient beaucoup et qui ne s'entendaient pas toujours très bien, donc assez isolé à la maison, je me suis construit à travers les livres, qui étaient ma passion. Donc, tout mon argent de poche passait en achat de livres. et en musique, parce qu'il y avait encore, ces installations. J'ai même commencé avec les 78 tours et je me suis éduquée toute seule en chanson avec Catherine Sauvage, avec Yves Montand, avec les Brandebourgeois de Bach, avec le jazz. Enfin, et j'écoutais et ça m'a nourrie. Et depuis, ça m'a toujours accompagnée.
Mais c'est vrai que vous êtes indissociable de l'objet livre. Ils ont toujours été au centre de votre vie, on le ressent en lisant ce texte. Et au centre de la vie de votre père, fondateur des éditions Actes Sud, maison au succès duquel vous avez contribué hein, dès sa création en 1978. Voilà ce qu'écrivait votre père dans une très belle lettre adressée à Jeanne, son arrière-petite-fille, lettre que vous reproduisez dans son intégralité dans votre livre. « Même s'ils n'ont plus cours quand tu auras l'âge de les lire, retourne de temps à autre au livre. Certains d'entre eux sont et resteront dans l'archéologie du monde, les conservatoires des idées les plus hautes et des émotions les plus fortes. De toute façon, tu le sauras, les livres en disent plus que les miroirs. Les livres en disent plus que les miroirs, Françoise Nyssen. Comment vous l'entendez, cette phrase sibylline de votre père ?
Elle est vraiment, pour moi, elle est d'une évidence. C'est à travers les livres qu'on connaît l'autre. Si on reste avec les mêmes, c'est peut-être un peu... de cela qu'il est question avec les instances, les conseillers, les voilà, il y a un peu trop des mêmes.
Oui.
Si on reste qu'avec les mêmes, on ne progresse pas, on ne s'enrichit pas. Et le livre par excellence, par essence, c'est ce qui permet de connaître l'autre, de découvrir l'autre, d'éprouver des émotions.
Et si un jour il y en a plus de livres?
Je ne peux même pas l'imaginer. Je ne pense pas que ce soit possible.
Au fond, en quoi les livres nous aident-ils à vivre? Pour vous, en quoi vous ont-ils aidé à vivre, vous?
Par l'émotion qu'ils suscitent, par la beauté qu'ils font ressentir, par les questions qu'ils soulèvent, c'est des questions en permanence, et par connaître l'autre. Moi, c'est vraiment ce qui m'a le... Je suis isolée, je suis enfant unique, je vis toute seule, mais... Enfin, je vis toute seule. Je vis un peu dans les arbres, d'ailleurs. Je lis dans les arbres, je suis souvent voilà, avec le livre. Eh bien, ça me nourrissait, ça m'apprenait le monde.
Ça vous a sauvé?
Oh, je crois, oui. Je me vois petite dans mon lit avec tout l'univers que mon grand-père m'offrait. Je passais des heures à lire ça.
Bah, on va continuer à rêver, à se sauver, à en parler évidemment de livres, d'engagement, de vie aussi. Juste après, un artiste que vous portez dans votre cœur. Vous le reconnaissez là, ça y est? Ah bah, c'est Johnny Hallyday. J'ai oublié de vivre. Vous êtes sur France Inter avec Françoise Nyssen. Vous écoutez Boomerang, évidemment.
À force de briser dans mes mains les guitares, sur des scènes violentes sous des lumières bizarres, à force de forcer ma force à cet effort pour faire bouger mes doigts, pour faire vibrer mon corps, à force de laisser la sueur brûler mes yeux, à force de crier mon amour jusqu'aux cieux, à force de jeter mon cœur dans un micro portant les projecteurs comme une croix dans le dos, j'ai oublié de vivre, j'ai oublié de vivre. À force de courir la terre comme un éclair, brisant les murs du son en bouquet de laser, à force de jeter mes trésors au brasier, brûlant tout en un coup pour vous faire crier, à force de changer la couleur de ma peau, ma voix portant les cris qui viennent du ghetto, à force d'être indien, Hells je sous bohème, l'amour dans une main et dans l'autre la haine, j'ai oublié de vivre.
J'ai oublié de vivre.
Boomerang sur France Inter.
C'est quand même fou comme elle inspire, et c'est d'ailleurs assez troublant, la sympathie, hein, avec son humilité, son sourire bienveillant, ses lunettes à la John Lennon, derrière lesquelles brille son regard rieur, difficile de réprimer ce désir qu'elle nous prenne par la main pour une promenade dans une ferme zéro déchet, une sortie dans une bibliothèque perdue au fin fond de l'Auvergne, un tour de manège à énergie propre, avec sa petite veste à fleurs jaunes et bleues ce matin. Françoise Nyssen, ex-ministre de la Culture, éditrice, ou du moins au directoire de la maison Actes Sud, invitée de Boomerang ce matin pour plaisir et nécessité en librairie. Aujourd'hui, et ce qui frappe en vous lisant, c'est ce désir quand même qui ne finit pas de vous animer, qui est celui de transmettre. Françoise, on parlait de votre père tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez le sentiment qu'il vous ait transmis, votre père ?
Il m'a précisément transmis ce désir d'avancer. D'ailleurs, il termine sa très belle lettre à Jeanne, qui est sa première arrière-petite-fille, qui est la fille de ma fille. Je dois dire, dans la question de la transmission, que quand même, j'ai 13 petits-enfants. Donc, cette question-là me taraude en permanence. Il m'a transmis des valeurs, la valeur de être autonome, être responsable, être avec les autres, tout l'amour de la culture, mais surtout d'aller dans le désir de faire. Et donc il termine sa lettre, il reste le désir. Et il dit d'ailleurs une chose très très jolie, c'est « tant qu'il pédale, le vélo ne tombe pas ». Et je trouve, moi c'est quelque chose que j'ai vraiment pris pour moi, finalement, je continue. Et je continue, c'est pour ça aussi que d'une certaine façon j'y étais, et c'est pour ça que je suis contente de continuer.
Alors, le lieu,
augmenter de ce que j'ai appris.
Le lieu qui incarne quand même le mieux cette question de la transmission, transmission que vous avez acquise et que vous perpétuez, ce désir de créer un monde en accord avec votre idée de ce qu'il devrait être, c'est quand même cette école, le domaine des possibles. Quel lieu est-ce que c'est pour vous justement ? L'école d'abord, en général.
Mais c'est l'école par excellence, c'est là où les choses commencent, c'est là où tout le monde peut se retrouver. Je dirais en toute fraternité, solidarité et égalité.
Et cette école-là, précisément ?
Et cette école-là, alors elle est nourrie par cette envie, effectivement, de pouvoir créer une école. C'est Montaigne qui dit que l'éducation, ça ne devrait pas être de remplir le chaudron, mais d'allumer le feu sous le chaudron.
Ah, si bah, j'ai bien fait de passer Johnny, moi.
C'est un peu dans cette esprit, une école qui accompagne les enfants dans ce qu'ils peuvent être. L'école en France, objectivement, est trop en silo. Elle est trop pour dire aux enfants « Vous devez faire ça, vous devez avoir telle connaissance, vous devez suivre telle filière. »
Vous l'avez dit au ministre de l'Éducation nationale,
bien
ça ?
Bien sûr, on a très bien travaillé, parce que si il y a eu cette ouverture qui est historique sur le travail entre l'Éducation nationale et la culture, sur la nécessité de l'éveil au sensible, sur la nécessité de la pratique artistique et culturelle, j'ai fait partie pendant 7 ans de ce qu'on appelle le Haut Conseil pour l'éducation artistique et culturelle, du temps où c'était Didier Lecoud qui le présidait. Et la chose qui était la plus difficile à faire, c'était de réunir les deux ministres. Nous, dès la première semaine, on a déjeuné ensemble, et en sortant, on avait lancé la rentrée en musique, en chantant.
Cette école, Françoise Nyssen, quand on vous a rapproché ces dérives pédagogiques, quand on la compare à une secte même parfois, qu'est-ce que vous êtes dit là ?
C'était tellement hors sol, et c'était polémique pour être polémique et pour déstabiliser. C'est ce que j'ai découvert en rentrant en politique et en responsabilité politique, c'est que la volonté de déstabiliser, elle permet tout. Et là, c'est absolument insensé, parce que évidemment, pas de dérive. On avait un directeur de l'école pour la création que je connaissais et qui venait des écoles Steiner. On lui a très clairement mis le projet entre les mains, créer une école du projet pour les enfants d'aujourd'hui, local, au contact de la nature, au contact de la culture aussi, que se nourrit. À cette école, on chante tous les matins, il y a la nature, il y a le potager, on fait du cheval, il y a toute la pratique des arts. Il se fait qu'il s'est un peu refermé sur la pédagogie Steiner. Toutes les pédagogies d'aujourd'hui, enfin, qu'on connaît, Freinet, Montessori, Steiner, sont des pédagogies qui ont été élaborées il y a des dizaines et des dizaines d'années. Oui. Aujourd'hui, il est urgent de regarder l'enfant et de regarder devant nous et d'accompagner l'enfant dans sa capacité à être. Et c'est le projet de cette école. Donc on s'est séparés de ce directeur. Un nouveau est arrivé et qui est un spécialiste de la pédagogie et qui est à fond dans cette idée de l'école du projet, qui se nourrit de tout. Alors, cette affirmation d'anthroposophie, elle est hors sol, elle n'a pas de fondement.
Pourquoi est-ce que vous avez l'impression de vous battre, vous, aujourd'hui, Françoise Nyssen ?
Alors, battre, c'est peut-être pas le terme, c'est de continuer, c'est, et avec détermination. J'adore aussi cette phrase de Gramsci qui dit que le pessimisme de la lucidité nous oblige à l'optimisme de la détermination. Et sincèrement, je pense qu'il faut toujours avancer, toujours réinventer. On va sortir prochainement un petit livre admirable d'Edgar Morin sur la fraternité. Et il conclut en disant que la fraternité, elle est essentielle, mais on doit la régénérer en permanence. Il faut toujours remettre, et ça me vient de mon père, toujours remettre sur le tapis, recommencer, reposer les questions en permanence et avancer. Et moi, ça me fait vivre.
Et c'est un texte sur le besoin d'Europe que vous nous avez écrit ce matin pour conclure cette émission. J'aimerais bien que vous nous le lisiez, si vous le voulez bien. Je vous poserai peut-être une question après.
C'est sur la culture qui amène
je me doute bien avec vous, Françoise.
La société est en crise. En chinois, crise signifie à la fois danger et opportunité. Crise du matériel, de l'économique à tout prix, crise écologique, crise du politique, crise de confiance à tous les niveaux. Plus que jamais se pose la question du lien et de son importance. La société n'a jamais été aussi connectée, mais aussi peu reliée. La nature nous montre l'exemple, et pourtant, nous la détruisons. La symbiose est dans la nature. Partout émerge la nécessité de plus de coopération. Fonctionner en écosystème cohérent permet de résister aux prédateurs, et ce, dans tous les domaines. Ma conviction est que la culture, par essence, peut permettre amener ce lien. L'art permet de donner forme à quelque chose au fond de nous, une émotion, un geste, une interrogation. Ce qui n'a pas de forme, d'expression, envahit tout et empêche de vivre. L'art, c'est rendre vivables les choses les plus difficiles, ce que font les artistes. Cela ne fait pas disparaître la souffrance, mais permet de vivre avec, de transformer. L'art permet de s'émerveiller et on a besoin d'enchantement. Et l'art permet de partager ce qui est confus, diffus, devient, par la création, partageable et ainsi naît la possibilité du lien avec les autres. C'est pourquoi la pratique artistique est si fondamentale pour avancer, pour être acteur de sa vie. Elle doit être au cœur de l'école. L'éveil au sensible est une question de santé culturelle et elle se fait par les mots, l'écriture, la lecture, la musique, le chant, le théâtre, la danse, la pratique des arts plastiques. Cela ne peut être la cerise sur le gâteau, le supplément d'âme, mais constitutif du parcours de chacun dès le plus jeune âge, et ceci en ouverture au monde. L'Europe, c'est s'ouvrir au monde. La culture doit aussi permettre l'accueil, l'hospitalité, la fraternité. Connaître l'autre par sa culture, ses pratiques artistiques, sa langue, c'est s'enrichir du monde et vivre dans le monde avec les autres. La langue de l'Europe, c'est la traduction, disait Umberto Eco. Et Paul Veyne conclut son livre sur Palmyre en disant que vivre sous une seule culture est comme vivre sous un étouffoir.
Merci Françoise Nyssen. J'ai pas de questions après ce texte, moi. Merci d'être venue faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que Plaisir et nécessité chez Stock dans la collection La puissance des femmes sort aujourd'hui même. C'est une lecture très inspirante. Tout de suite, les médias. Sonia De Villers, l'instant M, juste après ça.
Summertime and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm. It gets harder. Me and my girl, we got this relationship. So bad, but she treats me like shit. On lockdown like a penitentiary. She spreads her loving all over, and when she gets home, there's none left for me. Summertime, and the living's easy. Rallies on the microphone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Someday rise. So what am I?
Lana Del Rey sur France Inter et tout de suite c'est l'heure des médias avec Sonia De Villers à l'instant M.
Je suis là Augustin, à demain.
À demain.
Stop, c'est parti.
Nous allons parler de l'information.
Les journalistes.
You are fake news.
9h41, merci à tous d'écouter France Inter, c'est un nouvel instant M qui démarre.
Vous vous coupez ?
Non,
vous
coupez.
Non.
Vous êtes en direct, allez-y.
Départ pour le Brésil ce matin, la Mecque des médias latino-américains, le premier marché du continent. Là-bas, les chiffres donnent le vertige, les titres de presse en circulation se comptent en plusieurs centaines, les radios en plusieurs milliers. Quant aux chaînes de télévision, elles sont la toute-puissance des médias de masse concentrés entre les mains de quelques-uns. Le Brésil, le pays des dynasties médiatiques, ces riches familles qui mêlent intérêts industriels et souvent potentats politiques. Elles possèdent des groupes de communication tentaculaire qui se partagent le pays et façonnent l'opinion publique. Comment ces grands propriétaires et leurs réseaux de médias se sont-ils positionnés face à Jair Bolsonaro, nouveau président d'extrême droite ? Ont-ils fait d'ailleurs son élection ?
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Aqui é o Fórum da Democracia, biblioteca, sai lá, não faça pergunta desse padrão, não que. Não vou,
ai,
me, não vou irritar contigo,
toda,
não.
Tá contra, não. O que diz.
Mas você é uma idiota, você aprendeu onde isso daí? Você aprendeu onde isso? Eu tô falando que tá no diário do Congresso? Como é que eu tô mentindo? Por favor.
Bonjour, Maria Eduarda da Mota Rocha. Comme ça qu'on dit ? Rocha ?
Oui, c'est parfait.
Voilà, vous avez le nom le plus long de tous les invités que j'ai jamais reçus dans l'instant M. Je suis heureuse de vous recevoir à Paris. Vous êtes docteur en sociologie, vous êtes professeur à l'Universidad Federal de Pernambuco, c'est à Recife. Vous êtes professeur invité à Paris 3, vous étudiez la sociologie et les médias. Un petit mot, justement, vous qui êtes bilingue français et portugais, on vient d'entendre le président Bolsonaro qui s'en prend de manière extrêmement virulente à une journaliste. Qu'est-ce qu'il dit dans l'extrait qu'on vient de passer, dans l'archive qu'on vient de passer ?
Il dit qu'elle est une idiote, qu'elle devrait rentrer à la fac pour apprendre le journalisme, qu'elle ne sait pas ce qu'elle dit. Mm-hmm. Mais tout simplement, elle a posé la question de la chute des investissements dans les universités.
Mm-hmm. Voilà. Il n'était pas encore élu président à ce moment-là. Il était député, on était en 2014. Alors, je l'ai dit, le Brésil, c'est le plus grand marché des médias d'Amérique latine. Il est caractérisé par des grands groupes plurimédias. On va vous en parler. Le Grupo Globo, le Grupo Record, le Grupo SBT, le Grupo Abril, Bandeirantes, oui. Pardonnez mon portugais.
Non, c'est très
RBS,
bien.
Estado, voilà. Ce sont ces grands groupes. Et ils appartiennent à une poignée de familles influentes. On parle au Brésil de coronelisme électronique. Il faut nous expliquer d'où vient ce mot de coronelisme, Maria Eduarda da Mota Rocha.
Alors, coronelisme, c'est un mot qui était employé pour décrire le rapport politique entre le grand propriétaire foncier et ces groupes de gens qui dépendaient de lui, de ces groupes.
On parlait des coronéis pour ces propriétaires
terriens.
Ouais,
c'est ça.
Dans les
années
30.
Parce qu'ils avaient, souvent un statut lié à l'armée aussi. Mm-hmm. Alors, ces grands patrons et de propriétaires fonciers, ils contrôlaient la population.
C'est ça.
Donc, ils pouvaient.
Tout un système de clientélisme.
Oui, c'est ça. Ils pouvaient élire les députés, les sénateurs et même le président de la République. Et maintenant, on utilise ces mots pour décrire le même rapport de dépendance, de contrôle politique sur les populations à partir de chaînes de télé et de radio.
De chaînes de télé et de radio, hein, je l'ai dit parce que, en fait, chacun des groupes dont je viens d'évoquer le nom possède des journaux nationaux, locaux, des radios nationales, locales et plusieurs chaînes
chaînes de télévision câblées, satellites, hertziennes, voilà. La télévision, c'est vraiment le média de masse par excellence au Brésil. Il y a encore 3 ans, j'ai retrouvé une étude, seulement 3% des Brésiliens disaient ne jamais regarder la télévision. 3%,
ouais, c'est ça.
C'est ça. 65% la regardent quotidiennement. 97% regardent les chaînes privées.
Oui, c'est ça.
Donc, médias extrêmement puissants.
Extrêmement puissants. Elles concentrent aussi beaucoup les investissements publicitaires. Mm-hmm. Mm-hmm. Et il y a une concentration médiatique absurde au Brésil.
Oui.
C'est vraiment un marché oligopolisé.
C'est ça. Avec un audiovisuel public très faible, mal financé, fragile, qui manque de couverture territoriale. Hein.
Oui, qui est en train d'être détruit au moment même où on parle.
Ah oui. Ah
la
oui.
EBC, la entreprise brésilienne des communications,
oui.
qui a été mise en place.
L'équivalence
par...
de quoi? De France Télévisions et Radio France.
Oui, c'est ça.
Oui, oui.
Qui a été mise en place par le gouvernement du PT.
C'est ça, du Parti Travailliste, du Parti de la gauche.
Du Parti Travailliste, oui. de Lula et tout ça, est en train d'être... Elle doit être privatisée dans les prochains mois.
Ah ça, je l'ignorais. Ça signifie que c'est une histoire très très récente, l'audiovisuel public
oui,
au Brésil.
Oui.
Ça existe depuis très très peu de temps,
très,
finalement.
Très peu de temps, et c'est un système très fragile.
Oui.
C'était, à mon avis, un pari équivoqué du
oui.
PT, parce
oui.
que le PT n'a pas voulu... faire face au problème de l'oligopolisation des médias au Brésil,
mm-hmm.
qui était une demande des mouvements sociaux.
Ouais.
Et pour ne pas
comment avoir à démanteler ou à légiférer pour
ça.
Limiter le pouvoir des grands propriétaires,
oui, oui.
on a voulu créer cet audiovisuel public.
C'est ça, pour ne pas faire face au pouvoir des grandes chaînes, des grands groupes de communication au Brésil.
Ouais.
Le petit a dit on va créer un système public, mais c'est très facile de contrôler un système public quand on a un changement de pouvoir comme.
Absolument,
qu'on a eu au Brésil.
Absolument, absolument. Je vous emmène sur la chaîne Globo News, qui est la première chaîne d'info au Brésil, et on va parler de ce groupe au Globo, justement.
Olá, muito boa noite para você que está conosco aqui no Jornal das 10. Eu sou Heraldo Pereira, vejo os destaques desta sexta-feira.
Alors, Grupo Globo, il faut que vous nous racontiez, Maria Eduarda da Mota Rocha, il faut que vous nous racontiez l'histoire absolument insensée de ce groupe, parce que nous n'avons pas d'équivalent ici en France et même pas, à mon avis, en Europe.
Oui, pour que vous ayez une idée, le dernier grand succès des feuilletons au mm-hmm. Brésil, la Globo a eu, la chaîne de
ouais.
télé, a eu 80% de share. C'est-à-dire 80%
de part de marché, vous voulez
oui,
dire,
c'est
de
ça.
Part de marché.
De toutes les télés qui étaient allumées dans la dernière.
C'est dingue.
Ouais,
c'est dingue.
Absurde.
Et moi, j'en ai retrouvé un autre de telenovelas. Hein, donc, ce sont vos soap opéras
ouais.
brésiliens bien connus. Et c'est une des spécialités de Globo. J'en ai retrouvé. On va écouter son générique. C'était Gabriella, ça s'appelait.
Ouais.
C'était il y a quelques années. Et là, les parts d'audience sont montées jusqu'à 95%. 95% des téléspectateurs d'un pays devant la même chaîne
ouais.
de télévision.
Ouais. C'est vrai aussi qu'elle perd de plus en plus ses audiences.
Ouais.
Pas exactement pour d'autres chaînes. Il y a bien sûr la montée de la Record qui est liée au groupe des évangéliques. Mais elle perd d'audience surtout par les nouveaux comportements de consommation médiatique des nouvelles générations.
Voilà, qui vont plus sur les smartphones, sur Internet,
ouais,
etc. Alors le groupe Globo, en fait, au départ, c'était un groupe de presse. Et puis ensuite, qui a la télévision a connu son essor, un essor qui est lié à l'histoire de la dictature au Brésil,
ouais.
un essor qui est lié au régime militaire, ça c'est très intéressant.
Ouais, c'est vraiment quelque chose qui est très très clair dans l'histoire du Brésil.
Mm-hmm.
La Globo, l'hégémonie de la Globo dans les médias brésiliens est due à la protection du régime militaire. Parce qu'il y a eu même, par exemple, la persécution à des groupes concurrents
oui.
qui avaient d'autres positions politiques.
Pour les empêcher de se développer.
Oui. Pendant que la Globo assumait ce poste de leader de communication au Brésil. C'est très, très lié. Il y a eu même des affaires, des enquêtes aux législatives, mais qui n'ont abouti à...
Ça signifie que les télévisions de la Globo servaient à diffuser de la propagande militaire. Ça signifie que c'était un État dans l'État, mais un État au service de l'État militaire.
Oui, c'est ça.
Oui.
Surtout par ce qu'on appelle l'idéologie du progrès.
Mm-hmm.
C'est-à-dire le Brésil était en train de vivre une modernisation capitaliste très intense, très accélérée.
Je rappelle les dates de la dictature, hein, 1965-1984, ça a duré 20 ans.
Oui, c'est ça. C'est ça. Et la Globe, même à travers la publicité, disait que le Brésil était sur le bon chemin.
C'est ça. C'est ça. Donc un poids énorme dans l'opinion publique, une influence politique énorme. La Globe aussi, j'ai bien compris, a longtemps fait barrage, par exemple à Lula, qui a fini quand même par être élu président. Comment se situe la Globo aujourd'hui face à ce pouvoir d'extrême droite?
Pour bien comprendre cela, il faut le dire que Bolsonaro, il est lié à trois groupes distincts qui ne s'entendent pas très bien. Mm-hmm. C'est un gouvernement très difficile du point de vue des négociations politiques internes. Mm-hmm. D'abord les militaires, puis après les néolibéraux.
Oui.
C'est dans ces côtés-là que la Globo est embarquée un peu à la candidature de Bolsonaro au dernier moment, pour éviter l'arrivée du PT au pouvoir, la continuation du PT au pouvoir. Et pour finir, les groupes les noyaux durs, comme on dit, ce sont des fanatiques religieux.
D'accord.
La plupart d'hommes blancs et d'âge moyenne.
D'accord.
Liés aux églises évangéliques aussi.
Aux églises évangéliques.
Alors la Globo, elle, en ces moments, elle est très critique du gouvernement parce qu'il n'arrive pas à faire avancer les réformes. La réforme de la retraite sur l'exécutif, parce qu'il insiste à ne pas être à la hauteur du poste de président de la République. Il, par exemple, il ne parle pas avec certains groupes de presse. Il a un traitement très discriminatoire par rapport à certains groupes de presse.
Absolument.
Il fait des persécutions à des journalistes.
Il les menace, oui. Il les invective.
Et une partie des élites brésiliennes qui sont liées au judiciaire ou même dans d'autres secteurs influents, du point de vue de mœurs, sont plus progressistes que le gouvernement.
Alors justement, il faut raconter qu'il y a un autre très très grand diffuseur de télévision au Brésil, le numéro 2 derrière le Globo, qui s'appelle Record. Et Record, justement, représente ces fanatiques religieux, évangélistes, néo-charismatiques, si j'ai bien compris. Ils appartiennent à un homme qui s'appelle Edir Macedo, c'est comme ça qu'on prononce,
oui, c'est ça.
Voilà, qui est à la fois le propriétaire de Record et le dirigeant de l'Église universelle du règne de Dieu. C'est ce qu'on appelle un télé-évangéliste, on va l'écouter chanter avec ses fidèles.
O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que sobre a
Voilà, et mon invité Maria Eduarda qui se fait un petit signe de croix, on sait jamais, on sait jamais, ça peut servir.
Ouais, en tout cas au Brésil c'est très nécessaire. Hein.
M'avez confié, parce qu'on va le dire, vous êtes universitaire, donc vous enseignez à Recife, là vous êtes invité à Paris 3, vous m'avez confié avant le début de cette émission que c'est très douloureux pour vous d'être à Paris, de savoir vos confrères et vos consœurs, vos collègues qui sont menacés, harcelés au Brésil. Et vous m'avez dit tous ceux notamment qui travaillent sur les questions de genre et de la sexualité, qui affrontent justement ce fanatisme religieux-là.
Oui. Il y a une véritable épidémie d'assassinats d'homosexuels et de femmes au Brésil en ce moment.
Ouais.
Et ça, c'est lié à ces groupes et à ce genre de narrative qu'on voit, qui est menée par les églises évangéliques.
Évangélistes, et c'est vraiment très particulier le fait que ces églises évangélistes possèdent des télévisions et parmi les télévisions les plus regardées du monde.
Oui. Ils font même des feuilletons liés à des thèmes bibliques pour essayer de faire concurrence à la Globe. Mm-hmm. Mais à mon avis, du point de vue politique, la Globe garde une crédibilité que la Record n'a pas.
Oui. La Record a quand même tout fait pour pousser Jair Bolsonaro.
Oui, il a donné des entretiens exclusifs, il fait ce genre des protections par rapport aux chaînes qui sont proches de son groupe politique. Et la Globe, elle sent le coup. Hein.
À
ces moments, elle a du mal à faire la couverture politique parce
c'est
que
ça.
Le président.
C'est ça. Évidemment, privilégie Record et les télés évangélistes. Oui. Alors, on a annoncé au mois de janvier, Maria Eduarda, l'arrivée de CNN au Brésil. Alors, j'ai lu des choses, moi, très contradictoires. C'est un très, très gros projet. Il y a 400 journalistes qui vont être recrutés. On sait bien que CNN, c'est le contre-pouvoir à Trump aux États-Unis. Donc, il y a des gens qui se demandent si CNN va arriver au Brésil pour être un contre-pouvoir à Bolsonaro. Et d'autres qui sont, au contraire, terrorisés parce que ce sont des proches, des très proches de Bolsonaro et d'Edir Macedo, là, ce pasteur télé-évangéliste, qui vont diriger CNN au Brésil. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Parce qu'en fait, je pense qu'au Brésil, comme les médias sont très très proches de la politique ils sont un peu partout, mais au Brésil, ils sont contrôlés par des figures politiques, avec des intérêts politiques très très clairs. C'est impossible de CNN d'échapper à ces jeux de force. Alors, quand elle arrive au Brésil, elle va se positionner par rapport au marché des médias. Et immédiatement, à partir de cette position, elle acquiert un sens aussi politique. Si elle va affronter la Globo en ce moment, c'est le groupe de Bolsonaro. Malheureusement, la gauche n'a pas, n'a pas une existence forte au Brésil en ce moment pour représenter une, un contre.
Et globalement, c'est ce qu'on dit hein, dans les articles de presse au Brésil, c'est que CNN arrive pour affaiblir encore le monopole de Globo, pour affaiblir encore les revenus publicitaires de Globo. Donc, on voit bien, de toute façon, ça a été confié à un grand mania de l'immobilier qui est très pro-Bolsonaro, ce CNN brésilien, et au numéro 2 d'Edir Macedo, le pasteur l'évangéliste. Donc, on pense quand même que globalement, CNN va être du côté, du pouvoir. Du pouvoir.
Et il faut le dire que ça, c'est lié, vous voyez, d'une façon très contradictoire aux conquêtes de la période de gouvernement de PT.
C'est-à-dire, la gauche PT, c'était Lula.
C'est ça. C'est-à-dire que le pouvoir d'achat des classes populaires a beaucoup augmenté pendant cette période. Et les classes populaires ont commencé à compter comme une demande importante pour le marché des médias, pour le marché publicitaire. Alors, si le CNN arrive avec le groupe de Bolsonaro, ça veut dire qu'elle s'adresse plutôt aux classes moyennes et aux classes populaires.
Je vais vous faire écouter ce que les Brésiliens appellent les ninjas. Les ninjas, c'est un média social qui couvre les manifestations au Brésil et qui est né au début des années 2010.
Lembrando que quem é você? Você queria me entrevistar? Você faz parte da imprensa? Você faz parte da imprensa que queria me entrevistar? Você é de que veículo, irmão? Você é de que veículo?
De onde você veio?
De onde você veio, cara? Que você queria me entrevistar aqui junto com os caras? Fala aí, mano. Fala aí.
Il est là, le contre-pouvoir.
Ben, il faut le dire que les médias indépendants ont beaucoup augmenté ces derniers temps au Brésil. Nous, à l'université fédérale de Pernambouc, on a créé une émission de radio, nous les professeurs, parmi toutes les activités qu'on a, parce qu'on avait deux chaînes de radio à l'université qui étaient un peu sous-utilisées du point de vue journalistique, et les professeurs de communication et puis les professeurs de sociologie, nous avons créé une émission pour faire ce, et on a eu par exemple 1 million de visualisations à la première année. Alors ça veut dire qu'il y a une demande pour une contre-information, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas au Brésil, on n'a pas un système médiatique. Je vous donne une donnée très simple. Le système de sécurité sociale au Brésil, il n'est pas déficitaire. Et au contraire. Et cette information ne circule pas. On ne sait pas. Tout simplement, on ne sait pas. On n'analyse pas le modèle de sécurité sociale qui a été implémenté par la Constitution de 1988. Et on ne parle pas. Tout simplement, c'est une vérité incontestable qu'il faut faire la réforme de sécurité sociale.
C'est ce que prône Bolsonaro, évidemment.
Et de ce côté-là, la Globo est avec lui. De ce côté-là, ils sont tous ensemble.
Voilà. Donc, ces ninjas, ces reporters de rue, armés de smartphones, qui diffusent sur Internet et qui sont de plus en plus suivis, en réalité.
Ils sont de plus en plus suivis. Il y a d'autres groupes importants. Il y a des revues. Il y a des émissions sur YouTube. Il y a même des blogueurs qui jouent un rôle important au Brésil en ce moment pour dire des choses qu'on n'entend pas dans les médias.
Maria Eduarda da Mota Rocha. J'ai réussi. Je suis très heureuse de vous avoir reçue et j'espère que vous aurez l'occasion de revenir en France et de revenir dans l'instant M.
Pour moi, c'est un grand plaisir.
Merci pour votre visite.